Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 5 octobre et on vous accompagne tout chousse jusqu'à 6h30.
Quel est le défaut principal de Bernard ?
Il est égoïste.
On sait mal. C'est très mal. Rien à voir avec le ski. Ce qui se passe, c'est que tu ne te sers que d'une seule jambe. Alors ce que tu vas faire, tu vas retirer un de tes skis et tu vas voir que les deux jambes sont utiles. Vas-y, retire un de tes skis. Tu l'as senti ? Ouais, j'ai bien compris là, j'ai bien compris.
Oui, j'ai bien compris Bernard, ça va skier cet hiver, on va pouvoir enfin prendre un grand bol d'air pur, c'est ce qu'a déclaré il y a quelques jours sur Europe 1 Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, après une année noire pendant laquelle les pentes enneigées n'ont pas pu être dévalées. Les remontées mécaniques vont enfin être remises en route et pas besoin de passe sanitaire pour y accéder. En tout cas, on devrait commencer la saison sans, puisque la situation sanitaire le permet. Est-ce que les vacanciers sont prêts à rechausser les skis ? Est-ce que les saisonniers ont répondu à l'appel des 250 stations de ski alpin en France qui recrutent ? Eh bien, on sera avec Laurent Reynaud, le délégué général du syndicat des domaines skiables de France. À la une également, Julien, un rapport qui est très attendu.
Par des dizaines de milliers de personnes victimes de pédocriminels au sein de l'église, des violences sexuelles dont l'ampleur a longtemps été ignorée, scandale étouffé, circulé, il n'y a rien à voir, et bien tout cela, c'est fini, a priori. C'est en tout cas l'ambition de ce rapport qui sera rendu public dans la matinée. À 9h, on en connaît un élément, 3000, comme le nombre de prédateurs ayant sévi dans l'institution depuis 70 ans. Quant à celui des victimes, il pourrait bien être à 6 chiffres, c'est une déflagration à laquelle s'attend l'Église qui a missionné ses travaux de la Commission Sauvé à la suite de l'affaire du père Prénat en 2016, affaire dont était à l'origine l'association La Parole Libérée. Son ex-président François Devaux sera notre invité à 6h10. On lui demandera ce qu'il attend de ce rapport et s'il pense l'Église capable de changer de fond en comble. Avant cela, à 6h moins le quart, Omblin, la prescription culture.
Avec le conseil lecture de Nicolas Caro, qui a été scotché par un roman enquête signé Jérôme Chantreau. Un polar sur une vraie histoire pleine de rebondissements, ça s'appelle Bélazar.
Et puis votre partition Omblin à la toute fin de l'émission.
Il y a chez lui un petit peu de Tony Bennett, on en a déjà parlé ici. Un peu du crooner Bing Crosby et beaucoup de Frank Sinatra. L'idole américaine Bobby Darin à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. On commence tout de suite avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Après les pluies diluviennes hier, notamment dans le sud de la France, où en est-on ce matin ?
Alors déjà, il n'y a plus aucun département en vigilance. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Les chiffres d'hier sont très impressionnants. Hein. Rien que sur la ville de Marseille, on a des cumuls d'eau qui représentent plus de 2 mois de pluie. Alors ce matin, il reste encore quelques petites averses résiduelles sur les Alpes. Au bord de la Méditerranée, le soleil est de retour. Profitez-en ce matin, mais nous avons une nouvelle perturbation, ça y est, qui arrive par l'ouest. Alors ce matin, des Hauts-de-France aux Pyrénées-Atlantiques, en passant par le centre-Val de Loire, la région parisienne, la Nouvelle-Aquitaine, nous avons des pluies qui seront localement fortes. Cette perturbation, elle avance très vite. Cet après-midi, elle sera sur l'est du pays, de l'Alsace à la Méditerranée. Et donc, au bord de la Grande Bleue, c'est le retour de la pluie, malheureusement. Pour vous tous, ça sera moins fort hein, qu'hier, je vous rassure. En Provence, en Corse et en Côte d'Azur, on aura quelques coups de tonnerre sur la Corse quand même. Et puis sur la moitié ouest, on a un ciel de traîne qui se met en place. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures 8 à 18 degrés ce matin. Puis cet après-midi, ça baisse. Couvrez-vous, on aura seulement 12 à 25 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info avec le premier journal de ce mardi. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Un crime de masse trop longtemps passé sous silence. Le rapport de la Commission Sauvé va lever le voile ce matin sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église depuis les années 50. Que dit l'enquête ? Quels enseignements ? Combien de victimes au total ? On entendra le témoignage de l'une d'entre elles. Des centaines de millions d'internautes privés de story ou encore de like. Panne géante hier de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Grosse pagaille partout dans le monde, dont la France et aux États-Unis, où l'on rejoindra notre correspondant. Et puis face à la pénurie de personnel, les restaurateurs tentent de redonner de l'attractivité à leur métier. Plusieurs options à l'étude, notamment une augmentation de 9% et l'instauration d'un 13e mois. Est-ce que cela suffira ? Pas sûr. Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Combien y a-t-il eu de victimes de pédocriminels au sein de l'Église depuis les années 50 ? Remise du rapport de la Commission Sauvé ce matin sur les abus sexuels commandés par l'Église elle-même qui a financé ses 2 ans et demi d'enquête faramineuse. Les révélations s'annoncent explosives. Virginie Riva, vous êtes journaliste au service Société d'Europe 1. Que sait-on déjà de ce rapport ?
Alors, ce qui est le plus attendu, c'est le nombre de victimes en France, de prêtres ou de religieux. C'était l'une des missions de la commission, connaître l'ampleur du phénomène. Plusieurs sources, gouvernementales et internes à la commission, m'ont confirmé qu'on serait bien au-delà de 100 000 victimes. La dernière fois que Jean-Marc Sauvé avait fait un rapport d'étape, c'était au printemps dernier. Il parlait alors de 10 000 victimes seulement. On connaît également le nombre de prêtres prédateurs. À minima, 3 000 a déjà révélé Jean-Marc Sauvé sur les 115 000 en exercice entre 1950 et 2020. On serait donc à un peu moins de 3% de prêtres criminels. Autre information déjà connue, même si les chiffres de la pédophilie vont être effroyables, c'est dans la famille que les enfants français ont été les plus abusés selon les résultats de l'enquête INSERM. Enfin, les archives vont venir éclairer l'attitude de l'Église, comment elle a, jusqu'à une période toute récente, caché les faits pour que le scandale n'éclate pas, avec parfois, nous disait un membre de la commission, la complicité des familles, voire de la justice étatique.
Merci Virginie Riva. Et parmi les nombreuses victimes qui vont suivre attentivement la présentation de ce rapport, Véronique, 60 ans, dont une quarantaine passée à vivre avec ce fardeau.
J'ai été abusée par le prêtre de la paroisse qui était ami de la famille à peu près pendant 2 ans, entre 13 et 15 ans. Le fait que ça a duré plusieurs années, que c'était répétitif, plusieurs fois par semaine, voilà, ça abîme beaucoup. D'ailleurs, physiquement, je me suis un peu arrêtée de grandir à ce moment-là. Alors, j'ai essayé d'en parler finalement assez vite quand même, mais on ne m'a pas vraiment cru. Enfin, voilà, ça c'est très douloureux parce qu'on a l'impression que non seulement on a été abusé, mais en plus, on est abandonné. Après ça, bah, y a eu toute une période de ma vie, je n'en parlais plus, quoi. Enfin, j'avais voulu enfuir ça pour vivre ma vie de famille, de mère de famille, voilà. Puis un beau jour, ça ressort parce que forcément, un jour, ça va ressortir. Il y a un silence qui, au fond, enferme les gens, emprisonne les gens, les enterre vivants dans un tombeau. Donc, c'est cette possibilité de parler, de briser le silence, et ben voilà, qui ouvre un peu la pierre du tombeau.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Océane Théard. Après le déluge, l'heure est au nettoyage dans les Bouches-du-Rhône. Et même si la vigilance rouge pluie inondation activée pour la première fois depuis 20 ans est levée, le préfet appelle à rester vigilant. La présidente du conseil départemental demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une dizaine d'établissements scolaires restent fermés aujourd'hui à Marseille où 271 personnes ont été évacuées.
Il est 5h04 sur Europe 1 et ça y est, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp fonctionnent à nouveau.
Oui, après une panne géante de quasiment 7 heures, la plus importante jamais observée, rapporte même un site spécialisé dans les incidents Internet. Impossible d'envoyer des messages, publier des photos ou des stories pour des milliards d'utilisateurs. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Les employés de Facebook ont été eux aussi directement impactés. Comment on a vécu cette panne de l'autre côté de l'Atlantique ?
Oui, beaucoup se sont retrouvés au chômage technique. Impossible pour certains d'entrer dans les locaux de l'entreprise car leur badge électronique ne fonctionnait plus. Dans ces conditions, l'ampleur de la panne n'a pas pu être évaluée immédiatement car les salles des serveurs sont restées inaccessibles pendant plusieurs heures. Même chose pour des logiciels internes à Facebook, la messagerie, l'agenda, les téléphones professionnels, rien ne marchait. Des employés ont donc dû utiliser d'autres plateformes comme LinkedIn ou Zoom pour pouvoir communiquer avec leurs collègues. Dans une note interne, on apprend que Facebook a envoyé une petite équipe d'ingénieurs à Santa Clara où sont stockés plusieurs serveurs de l'entreprise pour tenter une réinitialisation manuelle. D'après les services de sécurité de Facebook, cette panne représente un risque élevé pour la réputation du groupe. Le cours de l'action a d'ailleurs plongé de 5% hier, faisant perdre à son fondateur Mark Zuckerberg l'équivalent de 7 milliards de dollars. En fin de journée, ce dernier a présenté ses excuses sur sa page Facebook, mais sans donner davantage de précisions sur l'origine de cette panne sans précédent.
Merci Alexis Guilleux, correspondant Europe 1 aux États-Unis.
Et à l'instant, Facebook vient de donner une explication à cette panne majeure et l'attribue cette panne à un changement de configuration dans ses serveurs. On revient en France avec le sujet de la rentrée, la pénurie de personnel. Elle touche de nombreux secteurs, notamment celui de la restauration.
Où l'on cherche depuis des mois des dizaines de milliers de salariés pour remplacer tous ceux qui ont jeté le tablier après les confinements. Il faut se réinventer, attirer de nouveaux candidats après des mois sous perfusion d'argent public pour éviter les fermetures. Le président de la branche saisonnier de l'UMI fait des propositions dans le Parisien ce matin. Augmentation des salaires jusqu'à 9%, 13e mois, et proposition d'un week-end de non-travaillé mensuel, des privilèges déjà accordés dans certains établissements. Mais ça ne suffit pas, Caroline Baudry.
J'ai eu un CV depuis le mois d'avril. J'ai vraiment tout essayé.
2500 euros de salaire, des primes, le 13e mois, à la tête d'un hôtel-restaurant dans l'Oise, Ludovic dispense même ses deux salariés du service du soir et du dimanche. Lui retourne au fourneau, son épouse en salle.
Ça n'empêche pas, vous ne trouvez personne non plus. Tous les midis, vous refaisiez du monde. Pour pas que les gens aient trop d'attentes, pour que ça suive et pour qu'il y ait un service correct.
30% du chiffre d'affaires en moins, l'Hôtel du Nord pourrait bientôt fermer, faute de bras. Ils sont nombreux à fuir la profession depuis le confinement.
Ça a été vraiment un déclic pour moi phénoménal.
Après 2 ans de journées interminables dans la restauration rapide, Amélie se retrouve en vacances forcées.
Pendant le premier confinement, ma vie de couple a connu un boost phénoménal parce que je voyais mon mari, j'avais le temps d'échanger avec lui. Ça m'a permis de redécouvrir la vie de famille, la vie sociale et tout.
Ce que la restauration n'offrira jamais, dit-elle, quelles que soient les réformes.
Le président de la branche saisonnier de l'UMI appelle aussi le gouvernement à mettre fin aux exonérations de charges sur les plus bas salaires, ayant pour effet, selon lui, d'encourager les employeurs à recruter au SMIC.
Outre-Manche, à Londres, première journée d'audience hier au sujet du naufrage inexpliqué du Bugalet de Braise en 2004.
Oui, pour déterminer les causes du drame qui avait coûté la vie à 5 personnes au large des Cornouailles, l'avocat Dominique Tricot représente les familles de victimes, reconnaissant vers la justice anglaise. Il reste assez déçu. L'expert principal ne se base que sur un rapport, celui du bureau d'enquête français. On l'écoute.
Formidable que les Anglais acceptent de consacrer 3 semaines à cette affaire, là où la France a eu peur de le faire, où la raison d'État était la plus forte. Cela dit, on ne peut pas sortir de cette audience avec un optimisme excessif, parce que l'expert a été appointé avec une mission complètement idiote, puisqu'on ne lui a donné comme grain à moudre que le rapport du BEA, qui est un rapport non judiciaire, qui est un rapport fait par le ministère du Tourisme, qui est le seul qui conclut à l'hypothèse d'une croche molle et pas à celle d'un sous-marin. Donc ce pauvre expert considère que ce rapport est l'évangile, et chaque fois qu'on lui donne un des autres rapports, c'est une pierre dans sa chaussure qu'il doit écarter. Donc forcément, on ne peut pas être optimiste. Après ça, quand 17 ans après, on consacre 3 semaines à un dossier, c'est qu'on veut arriver à quelque chose.
Des propos recueillis au micro Europe 1 à Londres d'Anaïs Cordoba.
Écrire un mot, c'est condoléances ou tout simplement remercier Bernard Tapie.
Ouais, l'OM ouvre le stade Vélodrome jusqu'à jeudi aux supporters qui souhaitent se recueillir ou saluer une dernière fois dans un livre d'or l'ancien président du club après son décès dimanche et dans la cité phocéenne où il a choisi de reposer. L'émotion est encore là. Reportage de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat.
Sur une simple table, le trophée européen de l'OM et un registre que s'apprête à signer Marie-Françoise.
Et signé pour sa famille.
Vous comptez écrire quoi sur ce registre, madame ?
Merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et encore une étoile qui s'envole.
Une chapelle ardente sera dressée ici ce jeudi avec le cercueil de Bernard Tapie avant ce dernier voyage en remontant la longue ligne droite du boulevard Michelet pour un hommage que Pascal espère à la hauteur de l'ancien président olympien.
Il faut que ça dépasse l'homme en fait. Il a tellement fait qu'il faut être au-dessus de tout ça. Il faut que ce soit un 14 juillet.
Un truc énorme.
Énorme, énorme. Il sera avec nous, toujours. On ne pourra jamais l'oublier.
Le boss reposera donc éternellement tout près du Vélodrome. Et pour Omar, le symbole est puissant.
Bien sûr que c'est beau, mais le fait que c'est sa volonté, moi personnellement, je trouve ça très émouvant. Et là, on voit qu'on n'est pas dans du pipeau, quoi. Ça prouve que Marseille l'aimait et il aimait Marseille réciproquement. Bien sûr que c'est énorme.
Et la mairie promet de renommer un lieu Bernard Tapie. Les supporters poussent pour que ce soit celui du stade Vélodrome. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et c'était le journal d'Alban Leprince. Merci Alban.
Il est 5h10 et c'est l'heure des courses sur Europe 1, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 304, Officer of State. C'est un poulain âgé de 2 ans, bien né, qui s'est remarquablement bien comporté lors de ses 2 premières tentatives sans pour autant avoir réussi à gagner. Il pourrait combler cette lacune dès cet après-midi, car force est de reconnaître que ce pensionnaire d'André Fabre trouve ici une opposition largement à sa portée. Alors notez bien, pour Chantilly, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 4, Officer of State.
C'est noté, merci Thierry Léger, et vous revenez dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1 et on vous garde avec nous car dans moins d'une minute, on va éplucher la presse pour en extraire le meilleur.
Oui, le meilleur selon nous, hein. Bon, c'est déjà pas mal.
C'est le meilleur.
C'est le pressing surtout. Et au menu ce matin, à quand une femme présidente en France, Captain Kirk dans l'espace pour de vrai et les mystères de l'hérédité. À tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Très bon début de matinée, nous sommes le mardi 5 octobre. On ouvre les journaux à 5h11, presque 12. C'est le pressing avec Martin Lange qui nous a rejoint. Bonjour Martin.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Martin. On commence avec un rapide coup d'œil sur les unes de vos journaux. Macron et la droite face à la percée de Zemmour, titre Le Figaro qui publie un nouveau sondage. On y apprend que le polémiste recueille entre 12 et 15% des intentions de vote, ce qui oblige, dit Le Figaro, ses concurrents à revoir leur stratégie électorale. Abus sexuels dans l'église, crimes de masse, peut-on lire à la une de Libération. Un travail de vérité, ajoute pour sa part Lacroix au sujet du rapport de la commission Sauvé qui sera dévoilé tout à l'heure. Et puis, partir était la suite logique. C'est ce que confie Kylian Mbappé à L'Équipe. L'attaquant du Paris Saint-Germain revient notamment sur son transfert avorté cet été au Real Madrid ou encore ses prestations en demi-teinte dernièrement avec l'équipe de France. Voilà pour les unes. Ombline, vous en avez une autre pour nous, je crois.
Une femme à l'Élysée, mais quand ? Effectivement, Julien, c'est la une d'aujourd'hui en France. Les droits des femmes seront l'un des thèmes de la présidentielle, mais combien de femmes politiques pour les défendre ? Combien seront-elles sur la ligne de départ ? Depuis 1965, 12 femmes ont été candidates pour 58 hommes. Savez-vous quelle femme a été la première à se présenter à briguer le poste suprême ?
Martin.
74.
Arlette Laguiller.
C'est vrai.
Ouais, avec un score de
2,33% au premier tour.
Vous êtes
J'avais lu l'article.
Mais... Je suis une machine.
J'ai posé la question avant qu'on entre. Les deux seules femmes à être parvenues au second tour sont Ségolène Royal en 2007, Marine Le Pen 10 ans plus tard. On est donc en droit de se demander si en France on est prêt à élire une présidente. Eh bien, un sondage en janvier dernier dit en tout cas que c'est souhaitable selon 71% des Français. Pourtant, les traditions ont la peau dure. On penche toujours vers une candidature masculine qui, selon le directeur du pôle politique de l'IFOP, représente une forme d'autorité, dit-il dans l'article. On désigne un roi et non une reine. La France n'a jamais officiellement été dirigée par une femme, sauf lors des périodes de régence, lorsque le roi partait à la guerre ou lorsqu'il était trop jeune pour régner. Ça, c'est à cause de la loi Salique qui interdit aux femmes de prétendre au trône. Mais la loi Salique, c'est fini. La France, c'est plus un royaume. Alors les femmes en politique, oui, ça avance.
Enfin, la 5e République, c'est un peu une forme de monarchie.
Oui, on est bien d'accord. Ça va doucement. Alors ça avance doucement. Oui, mais ça avance. Emmanuel Macron a fait de la parité une grande cause lorsqu'il est entré à l'Élysée lors de la formation de son premier gouvernement. Il a donc montré l'exemple, 17 femmes contre 18 hommes. Mais seulement 2 à occuper un ministère régalien. Bon, Florence Parly aux armées, Nicole Belloubet, rappelez-vous, à la justice.
Et pas de première ministre.
Non. Aujourd'hui, dans... Mais faut pas oublier Edith Cresson. Bon, ça n'a pas duré longtemps.
Non, mais je parlais pour Emmanuel
Macron. Pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, dans le monde, 22 femmes sont chefs d'État ou de gouvernement sur 193 pays. L'heure des femmes à la présidentielle de 2022, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France.
Merci Ombline. Martin, à vous.
Oui, avec un personnage mythique de science-fiction qui va enfin aller dans l'espace pour de vrai, à 90 ans. Alors si je vous dis William Shatner, ça vous parle ?
Mais bien sûr !
Non, alors, pas du tout.
Mais alors, si, alors, d'abord,
dites-moi, Ombline.
Alors si vous dites l'espace, je le dirai après, mais c'est Hooker d'abord, le policier. Alors, et vous êtes sur Captain Kirk.
Exactement, Captain Kirk.
Dans Star Trek.
Exactement, le héros mythique de la série Star Trek. Il embarquera le 12 octobre prochain, dans une semaine tout pile, à bord de la fusée New Shepard pour le second vol habité de Blue Origin.
À 90 ans.
À 90 ans, c'est l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. À ses côtés, la vice-présidente de Blue Origin, Audrey Powers, un ancien ingénieur de la NASA et un fondateur de logiciels médicaux. Bon, on sait pas trop ce qu'il fait là. William Shatner, ou le capitaine Kirk, si vous préférez, deviendra l'astronaute le plus âgé à voyager dans l'espace. Et vous savez qui détenait ce record avant lui ?
Non, là je l'ai pas.
C'est le patron de Virgin ?
Pas du tout. C'était déjà dans le précédent vol Blue Origin, le tout premier en juillet, ça s'appelait Wally Funk. C'était une astronaute de 82 ans, ouais. Boudée toute sa vie par la NASA.
Et à qui
Jeff Bezos avait offert l'opportunité d'aller dans l'espace. Alors c'est peu dire que Jeff Bezos a le sens du storytelling, avec cette participation du capitaine de l'USS Enterprise, le vaisseau de Star Trek. Il s'offre un magnifique coup de com', d'autant que son entreprise était tout récemment pointée du doigt. Dans une tribune parue la semaine dernière, plusieurs employés dénonçaient la culture toxique et sexiste au sein de Blue Origin. Plus grave, ils affirmaient qu'eux-mêmes ne monteraient pas dans une fusée de l'entreprise à cause d'un manque de personnel, d'un manque de ressources et d'une pression extrême pour réduire les coûts et les délais. La compétition avec d'autres milliardaires a pris le dessus sur la sécurité, écrivent les employés. Référence à la guerre qui oppose Bezos à Richard Branson, vous en parliez à l'instant, et sa société Virgin Galactic, qui elle aussi fait du tourisme spatial. Le capitaine Kirk de Star Trek va vraiment aller dans l'espace. C'est à retrouver sur le site du Huffington Post.
Merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article article passionnant à lire sur le site du Point. Article sur une révolution en cours. L'ADN est en train de perdre son trône dans l'histoire de l'évolution humaine et dans celle des familles. On a tous déjà entendu cette phrase. Il a de bons gènes. C'est généralement ce que disent les parents tout fiers de leurs enfants, n'est-ce pas, Ambline ? Oui, les gènes, ça compte, c'est certain. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui expliquent pourquoi votre descendance vous ressemble. Notamment l'héritage culturel, la langue, l'écriture, les conditions de vie. Je vous donne juste un exemple. Il y a 10 000 ans, les adultes n'arrivaient pas à digérer le lait. Seuls les enfants y arrivaient. Et puis le lait animal, de vache ou de chèvre, est arrivé. Résultat, nous sommes aujourd'hui tous quasiment porteurs d'une mutation qui nous permet de digérer le lait à l'âge adulte. Mais il y a aussi un troisième facteur, et c'est là la nouveauté. Une zone grise que commencent à étudier les chercheurs. Comment expliquer, par exemple, que les femmes sous-alimentées durant leur grossesse donnent naissance à des enfants qui ont de grands risques de devenir obèses, même en surveillant leur alimentation ? Obésité que l'on retrouve ensuite sur plusieurs générations sans que l'on observe une quelconque modification de l'ADN. Ça va aussi d'ailleurs pour les animaux. Pour les besoins d'une expérimentation, une chercheuse française a séparé des souriceaux de leur mère de manière répétée et imprévisible au cours de leurs 15 premiers jours d'existence. La plupart ont ensuite développé en grandissant des troubles du comportement comparables à ceux de la dépression. Logique, me direz-vous. Ce qui n'est pas en revanche, c'est que les descendants de ces souriceaux traumatisés ont développé sur deux générations les mêmes attitudes. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, les scientifiques étudient la piste de l'épigénétique. Alors pour faire simple, c'est la manière dont s'expriment les gènes. C'est ce qui fait, Martin, que vos cellules de foie et de poumons fonctionnent différemment alors qu'elles sont strictement identiques. L'épigénétique, donc, expliquerait pourquoi certains caractères, facultés et traumatismes se transmettent d'une génération à l'autre sans que l'ADN se modifie pour autant. Ça vaut autant pour la femme que l'homme. Et bonne nouvelle, c'est réversible. On n'est pas forcément condamné à être dépressif. Par exemple, si l'un de nos parents a été maltraité, tout peut se rattraper a posteriori, mais il est préférable d'anticiper avant même la conception de l'enfant. Des médecins conseillent donc désormais aux futurs parents de lever le pied bien avant de procréer, d'évacuer le stress, voire de changer de mode de vie et même d'arrêter le tabac et l'alcool minimum 3 mois avant les galipettes, car ce sont autant de facteurs, de fardeaux qui pourraient être transmis à l'enfant sans que les gènes n'aient leur mot à dire.
C'est passionnant.
Et c'est à lire dans Le Point.
Merci beaucoup Julien Rideau sur le pressing.
En revanche, je ne suis pas sûr qu'on peut faire quelque chose concernant les allergies. C'est transmissible aussi génétiquement parlant.
Je crois, ouais.
Parce que Martin, ça fait 3 semaines qu'il n'arrête pas d'éternuer toutes les 20 secondes.
C'est terrible.
On demandera une étude.
Sur mon épigénétique.
Et on vous retrouve dans une quarantaine de minutes, Martin.
À tout à l'heure.
En bonne santé pour le Journal des Sports. À tout à l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1. Les principaux titres de ce mardi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Combien d'enfants victimes d'agressions sexuelles dans l'église depuis les années 50 ? Réponse ce matin, 9h, avec la publication du rapport explosif de la commission sauvée et commandée par l'église elle-même. Dans les Bouches-du-Rhône, où la vigilance rouge, pluie, inondation est levée ce matin, le département demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Le Vieux-Port s'est retrouvé sous l'eau. Une dizaine d'écoles restent fermées à Marseille, où 271 personnes ont été évacuées. Des milliards d'internautes privés de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp hier. Une panne géante et inédite de 7 heures à travers le monde que Facebook attribue ce matin à des changements de configuration dans les serveurs. Tout est rentré dans l'ordre cette nuit. Et puis journée de grève et de manifestation aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale et des organisations de jeunesse. Elles protestent notamment contre la réforme de l'assurance chômage et des retraites.
Il est 5h20, très bon réveil à tous. À présent, ce sont les initiatives en France. On met en lumière chaque jour celles et ceux qui font bouger les lignes. Ce matin, Julien, on prend la direction de Béziers, dans l'Hérault.
Bonjour Ludovic Aventin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président fondateur de Terra Hominis, une société qui mise sur le financement participatif dans le secteur agricole. En clair, vous proposez de devenir copropriétaire d'un vignoble. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage ?
Nous sommes partis du principe que ce qui fait la force de la viticulture française, c'est la diversité de ses terroirs. Et dans les terroirs, nous mettons l'homme. L'homme fait partie intégrante du terroir et nous sommes en train de perdre les hommes parce que 2/3 des vignerons en France ont plus de 55 ans. Les banques ne suivent pas les jeunes, donc c'est les gros qui rachètent les petits. Et on lutte contre ça. Et c'est pour ça qu'on a développé notre structure. Ça correspond à un besoin pour les vignerons. Et en même temps, on propose un placement plaisir et pas du tout financier, spéculatif, ce qui fait que ça plaît également aux Français qui sont à la recherche de ce type de placement plaisir.
Est-ce que ça veut dire que les jeunes vignerons qui s'installent dans vos vignobles sont locataires ?
Alors, ils sont locataires d'une partie des vignes. On monte un groupement, généralement un groupement foncier viticole, et on les met gérants de ce groupement-là. Ça fait quelque part, ils se louent à eux-mêmes. Et les associés qui ont pris des parts, c'est pas 5 ou 2 personnes qui ont mis beaucoup d'argent, c'est en moyenne 120-130 personnes qui ont mis des petites sommes et qui sont là pour aider le vigneron dans sa démarche. Pour devenir associé, on fait un mail de motivation, comme quoi on fait ça pour le plaisir. Évidemment, on va percevoir des bouteilles de vin par an, mais c'est le prétexte. La vérité, c'est qu'on a envie de comprendre comment on fait le vin, donner du sens à son argent et aider un jeune vigneron à s'installer, ça a du sens.
Parce qu'aujourd'hui, un hectare de vigne, et je ne parle pas là des grands crus, mais ça coûte combien en moyenne en France ?
On ne peut pas parler de moyenne en France parce que c'est tellement variable. Il y a des endroits où on peut vous les donner pratiquement et il y a des endroits où c'est la guerre pour avoir un demi-hectare. C'est totalement variable. Ce qui est certain, c'est que nous nous intéressons à des terroirs qui sont abordables. On ne veut pas miser sur des terroirs, on va dire, qui sont un peu spéculatifs où les sommes font plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Donc là, ça n'est pas notre credo, parce que sinon, on est obligé de demander des participations importantes aux associés. Et nous, en moyenne, une part, c'est 1500, 1600 euros. Donc c'est une somme conséquente, mais c'est une somme qu'on met qu'une seule fois. Et quelque part, on a des bouteilles à vie derrière, et ça reste une somme raisonnable.
Donc les bouteilles à vie que vous venez de nous mentionner, ce sont d'une certaine manière les dividendes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ce sont des dividendes qui sont convertis en bouteilles de vin. C'est une partie des dividendes. Les vrais dividendes, c'est le plaisir qu'on a à partager. Vous voyez, hier, on était en terrasse du Larzac, dans un vignoble avec des associés. On a fait une assemblée générale et on a financé une cave à vin. Et on a fait l'assemblée générale dans la cave à vin, avec les cuves autour. Et on a bu le vin qu'on contribue à produire. Et bien ça, c'est pour moi les vrais dividendes. On a partagé un moment qui est magnifique. On sent que la démarche qu'on a eue tous, elle a vraiment du sens.
Comment vous est venue cette jolie idée ?
À la base, j'ai commencé pour faire ça pour moi et mes potes. On a fait ça pour nous, parce qu'on était amateurs de vin.
Et parce qu'à la base, vous êtes caviste, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. J'étais caviste et j'avais pas mal de copains qui rêvaient de ça. J'avais des clients sympas qui rêvaient de ça. Et on a fait ça pour nous. On a commencé à Faugères, dans le sud de la France. Et on a fait rapidement des vins qui plaisaient. Et on a eu un vrai succès économique. Et il y a plein de gens qui voulaient nous rejoindre, qui trouvaient ça génial, mais on n'avait pas de place. Et donc, on a créé un deuxième vignoble. Et après, j'ai rencontré des jeunes qui avaient beaucoup plus de talent que moi pour faire du vin, qui ne pouvaient pas s'installer. Et là, avec mon comptable, on a décidé de monter une structure et dédiée pour aider ces jeunes-là à s'installer et aider des vignerons à conserver leur indépendance.
Et cette structure, elle s'appelle donc Terra Hominis. Elle a été créée en 2010, je crois. Vous avez donc du recul, de l'expérience. Vous avez soutenu combien de domaines viticoles à ce jour ?
Alors, nous avons monté 39 projets. On a 2900 associés bientôt. Tous les jours, nous avons des gens qui viennent à nous pour prendre des parts.
Dernière question, vous investissez dans quelle région principalement ?
Alors nous sommes présents dans le Languedoc, c'est notre terroir de base. Derrière, nous avons développé également sur le Roussillon. Nous avons monté 4 projets sur Bordeaux, bientôt un 5e. Nous sommes sur Cognac, nous sommes dans le Beaujolais, nous sommes sur Chinon, dans la Loire. Et on veut développer vraiment la Loire parce que il y a un potentiel important dans la Loire, mais comme dans d'autres régions. La Savoie m'intéresse beaucoup, il y a des blancs qui sont magnifiques. Vignoble méconnu aussi, qui était un grand vignoble il y a quelques années, c'est dans le centre de la France, en Auvergne. J'aimerais bien monter un projet ou aider un vigneron en Auvergne.
Merci beaucoup Ludovic Aventin, c'est tout ce qu'on vous souhaite d'aider des vignerons un peu partout en France. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Terra Hominis. Merci de nous avoir partagé votre belle initiative. Bonne journée et à très bientôt.
Au plaisir, au revoir.
Europe Matin. You feel so high, you will be dancing in a cloud. I know your feelings, I know your pain. I
make your heart beat loud in a pocket full of love. You're not alone, yeah, yeah. 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 Yeah, I hate to see you worrying, I hate to see you sad. I hate to see you lonely and I hate to see you mad. I hate to see you crying, I hate to see you go. I hate to see you struggle and I hate to see you low. Got the boom boom feeling and the boom boom shock, the one that makes you happy when you wander in the dark. I got the boom boom fever, the boom boom shock, the one that makes you happy when you're down.
Qui met de l'entrain de bon matin, c'était la chanteuse française Annie Lalalove avec Boom Boom Shack, premier extrait de son premier album qui sortira à la fin du mois.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europe 1 et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on pense à vous si vous êtes déjà en partance au travail. Prudence sur la route et restez bien à l'écoute de ce qui va suivre. Oui, Omblin.
Est-ce que vous, votre surf est farté, Julien?
Ah, mais ski, oui. Pas surf, non.
Vous avez remonté votre plus belle combi fluo de la cave.
Patagonia, bon. Classique, années 80, rose fluo.
Les pistes rouges et la poudreuse n'attendent plus que vous. La saison de ski va reprendre après une année blanche avec des remontées mécaniques à nouveau en fonctionnement. 7 millions de Français pratiquent surf et ski, comme vous, Julien. Seront-ils aussi nombreux cet hiver? Y aura-t-il assez de saisonniers? Et le pass sanitaire? Alors, si la situation se dégrade, sera-t-il obligatoire en station? Nous serons dans 10 minutes avec le délégué général du syndicat des domaines skiables de France.
Mais avant la météo, avant celle des neiges, Anissa Haddadi, une matinée un peu plus calme dans le sud-est ce matin.
Oui, alors pour autant, il ne va pas falloir ranger le parapluie trop loin parce qu'on a un peu de répit, mais on a encore quelques petites averses qui traînent sur les Alpes ce matin. Mais vous le savez, c'est la saison, les perturbations s'enchaînent, elles se suivent. Et donc ce matin, nous avons une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest avec actuellement, là à 5h30, de la pluie sur la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Pays de la Loire, jusqu'à la Basse-Normandie. Cette perturbation, elle avance vite. Dans la matinée, elle sera sur la région parisienne, jusqu'aux Pyrénées, sur le Limousin, avec des pluies assez soutenues. Et puis dans l'après-midi, c'est l'Est qui est sous la pluie, le Grand Est, la région Rhône-Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, avec du vent au bord de la Méditerranée. 8 degrés à Metz ce matin, 9 à Aurillac, 12 à Paris, 13 à Montpellier, 17 degrés pour Ajaccio et 18 à Nice.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon mardi à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est votre journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Gaz, électricité, la hausse des prix de l'énergie au menu du sommet européen. Paris, Rome et Madrid militent pour une réponse commune face à l'envol des tarifs. L'Église se prépare au choc des révélations sur les abus sexuels commis par des prêtres et religieux. Le rapport Sauvé sera publié ce matin. Les victimes pourraient se compter par centaines de milliers. Le déplacement d'Emmanuel Macron en Slovénie. Le président participera à un sommet européen informel des 27 chefs d'État ce soir. Sa première sortie internationale depuis la crise des sous-marins. Et puis le nouveau maillot et nouveau logo pour les athlètes appelés à défendre la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Axel May vous dit tout à la fin de ce journal. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ce n'était pas prévu au programme, mais les 27 chefs d'État et de gouvernement ont fini par accepter de l'ajouter à leur agenda. La flambée des prix de l'énergie, il en sera question ce soir à l'occasion d'un dîner informel. Paris, Madrid et Rome poussent pour un changement de réglementation. L'Allemagne, au contraire, souhaite laisser faire le marché. Les discussions ne font que commencer, Isabelle Horry, et il va falloir convaincre tous les Européens. Et ça, eh bien, ce n'est pas gagné.
Oui, dans un premier temps, on le sait, les pays ont pris des mesures nationales, gel des prix en France, baisse des taxes en Espagne ou en Italie, mais ça ne va sans doute pas suffire. Alors face aux autres ministres des Finances réunis à Luxembourg, Bruno Le Maire a plaidé hier pour des mesures plus structurelles au niveau européen.
Ces solutions de court terme ont un coût pour les finances publiques qui se chiffre en milliards d'euros, donc ne peuvent pas être des solutions de moyen ou de long terme. Les solutions de moyen ou de long terme se résument en un seul mot, indépendance énergétique de l'Europe. Plus de nucléaire, plus de renouvelables, plus de stocks c'est ce qui doit garantir notre indépendance.
Pour réduire la dépendance au gaz venu de l'étranger, et surtout de Russie, Paris, soutenu par Madrid ou Rome, réclame une gestion plus fine des réserves stratégiques en Europe. La France veut aussi que le prix de l'électricité ne soit plus dépendant de celui du gaz, comme c'est le cas aujourd'hui sur le marché européen. Enfin, elle en profite pour plaider pour le nucléaire, énergie décarbonée et produite en Europe. Des propositions qui font grincer certaines dents, tout de même, notamment en Allemagne. La Commission européenne a été chargée de faire des propositions concrètes dans les prochains jours.
Isabelle Heury, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Cette question de la hausse des coûts de l'énergie et plus globalement de la perte de pouvoir d'achat sera au cœur des manifestations prévues aujourd'hui à Paris et dans toute la France. Plusieurs syndicats, dont la CGT, FO, ainsi que des organisations lycéennes et étudiantes appellent à la grève aujourd'hui. Principale revendication donc la hausse des salaires, des minima sociaux et des bourses d'études. Mouvement qui ne devrait pas avoir trop de conséquences dans les transports. La SNCF prévoit un trafic normal à Paris. La RATP annonce la même chose.
C'est un rapport attendu et redouté. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église publie aujourd'hui l'intégralité de son enquête.
Et les chiffres s'annoncent terribles. On parlait de 10 000 victimes, mais dès hier soir, les premières fuites évoquaient plutôt 100 000, voire 150 000 enfants et adolescents abusés par des religieux. Les faits portent sur la période 1950-2020 et de l'aveu même du président de la commission d'enquête, Jean-Marc Sauvet, il s'agit d'une estimation minimale. Ce rapport est un choc, prévient Karine Dalle, la directrice de la communication de la Conférence des évêques de France.
Les chiffres des personnes qui ont été victimes depuis 70 ans sont bien au-delà de ce que nous pouvions penser. C'est une réalité et que cette réalité, il faut l'accepter parce que le travail a été remarquablement fait. Seule la vérité va permettre à l'Église d'avancer dans le bon sens. Notre seul objectif doit être, bien évidemment, de protéger nos enfants. Tant que l'Église n'aura pas prouvé, parce qu'elle l'a fait, elle commence à le faire depuis quelques années, il faut qu'elle prouve que tous les lieux où les enfants sont accueillis, que tous ces lieux sont des endroits sûrs. Elle ne pourra plus être audible auprès de ceux qui s'en sont éloignés.
Karine Dalle avec Virginie Riva. Et ce matin, dans Aujourd'hui en France, le Parisien, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, Véronique Margron, lui répond comme en écho: si l'Église doit trembler, eh bien qu'elle tremble. Alerte météo levée dans les Bouches-du-Rhône, mais la préfecture recommande la vigilance. Une douzaine d'écoles resteront fermées aujourd'hui à Marseille. Les services de secours, pompiers et marins-pompiers ont réalisé plus d'une centaine d'interventions depuis hier. Les dégâts ont été en partie amplifiés par la grève des éboueurs qui a empêché le ramassage des poubelles. Environ 5000 tonnes d'ordures ménagères jonchaient encore les rues au moment des fortes pluies.
Emmanuel Macron est donc en Slovénie. À partir d'aujourd'hui, un déplacement lourd de symboles.
Dans un peu plus de deux mois, la France prendra la présidence tournante de l'Union européenne. On ne va pas parler de prise de contact, mais l'occasion est trop belle pour Emmanuel Macron de reprendre l'initiative et de faire oublier quelques camouflets sur le plan diplomatique, notamment la crise des sous-marins avec l'Australie. Jacques Serret, le président, a soigneusement préparé le rendez-vous de ce soir. Rendez-vous informel, oui, mais rendez-vous important à plus d'un titre.
Oui, en amont de ce rendez-vous dans la capitale slovène, Emmanuel Macron a tenu à échanger par téléphone avec Charles Michel, le président du Conseil européen, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ainsi qu'Angela Merkel, toujours chancelière outre-Rhin. Des discussions confidentielles pour préparer une grande manœuvre, car après le torpillage des États-Unis dans le contrat des sous-marins avec l'Australie, Emmanuel Macron voit dans ce dîner l'occasion de jouer un coup politique sur la scène internationale. Ce soir, face aux autres chefs d'État européens, il va revenir sur son échange téléphonique avec Joe Biden et tenter de convaincre ses homologues, les persuader que cette brouille entre l'Europe et les États-Unis est au final une opportunité, un moment privilégié pour réclamer des clarifications à Washington sur bien des dossiers épineux comme le Sahel ou le Moyen-Orient. Tout en affirmant davantage la souveraineté européenne, il s'agit de tirer le meilleur de ce qui s'est passé, confie un proche du chef de l'État. L'occasion surtout pour Emmanuel Macron de laver l'honneur de la France et d'essayer dès maintenant de se poser en patron de l'Europe, trois mois avant de prendre la présidence française de l'Union européenne.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Retour progressif à la normale pour Facebook. L'entreprise a été touchée par une gigantesque panne de près de 7 heures, la plus importante de sa jeune histoire. Un problème de configuration du réseau serait à l'origine de ce bug qui a affecté Facebook, Instagram et la messagerie instantanée WhatsApp.
L'équipe de France Olympique est déjà tournée vers les prochains JO avec un nouveau maillot.
Et cette nouvelle tunique sera inaugurée lors des Jeux d'hiver de Pékin en février prochain. Nouveau maillot et nouveau visuel avec un coq de face et non plus de profil. Eh bien ça change beaucoup de choses, Axel May.
Oui, et c'est une petite révolution. Pour la première fois depuis 1920, depuis qu'il accompagne les tenues de l'équipe de France olympique, le coq gaulois apparaît pleine face. Son bec rouge forme le V de la victoire et sa crête bleue symbolise la flamme olympique. La star du ski alpin, Alexis Peintureau, apprécie.
Un coq pas plus agressif, mais voilà, plus déterminé. Et donc automatiquement, bah voilà, ça donne un peu aussi les ambitions, ça donne le ton.
Un coq pour voir la victoire en face donc, mais pas seulement, souligne la championne olympique de ski acrobatique, Périne Lafond.
Moi, c'est surtout la fierté d'être une seule équipe. Le fait que voilà, il n'y ait plus de différence entre les athlètes paralympiques et olympiques, parce qu'on est les mêmes athlètes, on s'entraîne tous de la même manière, à quelque chose près en fonction des disciplines.
Et cette nouvelle identité visuelle accompagnera en effet les équipes de France olympiques et paralympiques, au moins jusqu'aux Jeux de Paris.
Alors, on pourra les voir à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, mais on peut déjà en avoir un aperçu en février prochain aux Jeux de Pékin. Axel May du service des sports d'Europe 1, Kylian Mbappé confirme ce matin dans l'équipe qu'il ne discute plus avec les dirigeants du PSG. On ne parle plus de prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir, explique l'attaquant français. Kylian Mbappé sera libre de signer où il souhaite dès janvier prochain. Ce sera peut-être le Real Madrid, puisqu'on sait qu'il voulait le rejoindre dès cet été. Il le confirme d'ailleurs chez nos confrères de l'équipe.
Merci beaucoup Christophe Lamour pour ce journal. On retrouve maintenant Thierry Léger qui lui ne veut pas partir pour les courses et les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce Quintet à handicap réservé à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Et parmi les 16 partants, je vous recommande Brock, le numéro 1, deuxième d'un Quintet similaire le 2 août à Dieppe et qui depuis a volontairement été ménagé en vue de cet objectif puisqu'il s'agit d'un poulain adepte des pistes assouplies. On lui opposera les numéros 7 High Lady qui se recommande elle aussi d'une excellente deuxième place dans un Quintet le 9 septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, 8 Super Supersonic, lauréat avec brio d'une deuxième épreuve de Quintet et qui a visiblement le niveau pour s'illustrer dès sa première tentative dans cette catégorie des Quintets, et 16 Full Flow, idéalement placé sur l'échelle des poids de ce handicap et qui peut réaliser un plus grâce à l'état du terrain. Enfin les numéros 2 Norville, 6 Coubird, 4 Valbassette et 3 Népalais compléteront ma sélection. Mon pronostic, As 7, 8, 16, 2, 6, 4 et 3.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger et à demain. Il est 5h39, dans un instant, direction les pistes rouges, bleues, vertes. Ça va skier en France cet hiver. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h40, bon début de matinée à tous sur Europe 1. Voilà une branche du tourisme qui a particulièrement souffert de la pandémie. Les domaines skiables français ont vécu une année blanche ou noire, c'est selon, avec des remontées mécaniques à l'arrêt l'hiver dernier. Eh bien, elles vont ouvrir à nouveau dans quelques semaines et sans passe sanitaire, si la situation le permet. Nous sommes Omblin avec le délégué général du syndicat des domaines skiables de France.
Bonjour Laurent Reynaud.
Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs matinaux.
Les réservations des vacanciers ont commencé et on recherche activement des travailleurs saisonniers. Est-ce que vous attendez une grosse affluence sur les pentes de nos montagnes françaises cet hiver ?
Oui, on attend la neige et on attend une grosse affluence puisque les niveaux de réservation seront annoncés en hausse pour l'hiver prochain. Donc on voit que l'envie de ski n'a pas diminué et que les spatules continuent de démanger tous les amoureux de la glisse. Et donc on a tous hâte que cette saison démarre. Les premières chutes de neige, d'ailleurs, ont blanchi les sommets et donc tout ça se présente bien puisque le ministre du Tourisme est venu la semaine dernière nous l'annoncer à Chambéry lors de notre congrès annuel. Il n'y aura pas de passe sanitaire sur les remontées mécaniques, en tout cas tant que la situation sanitaire est sous contrôle, ce qui semble être le cas pour le moment. Et c'est une nouvelle qui nous a fait fort plaisir.
Concernant le recrutement qui démarre, pensez-vous avoir et trouver assez de saisonniers après l'année noire en 2021? Est-ce qu'ils répondront présents également?
On est de ce point de vue-là également assez confiant dans le sens où on a embauché la totalité de nos saisonniers l'hiver dernier, alors même qu'on a finalement été privé de toute la saison d'hiver, mais on a embauché tous nos pisteurs secouristes, nos conducteurs d'engins d'amage, nos conducteurs de remontées mécaniques, ils ont tous été embauchés et placés en activité partielle, malheureusement. Pour autant, c'est sûr que nos métiers de la neige sont des métiers de passion. On devient pisteur secouriste par hasard et le fait de ne pas avoir pu exercer pendant plus d'un an forcément, c'est traumatisant pour tout le monde. Donc, il y aura un peu de tension sur les métiers cette année. On a prévu d'ailleurs, à ce titre-là, de faire une campagne de promotion sur les métiers de la montagne, sur les métiers des domaines skiables, sur les réseaux sociaux, afin de donner envie aussi aux gens qui souhaiteraient, en ce moment, changer d'orientation professionnelle et venir dans le plus beau bureau du monde, c'est-à-dire nos montagnes, et leur donner envie de venir sur nos métiers.
Alors, vous le disiez, pas de passe sanitaire pour accéder aux remontées mécaniques, c'est ce qu'a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme. En tout cas, on commence la saison sans. Un projet de loi de vigilance sanitaire sera présenté en Conseil des ministres le 13 octobre. Qu'attendent les professionnels de la montagne ?
On attend de la visibilité. On a bien compris qu'aujourd'hui, l'épidémie était sous contrôle. C'est une très bonne chose pour nous tous. Maintenant, il faut aussi qu'on nous dise, dans l'hypothèse où il y ait une recrudescence de cette épidémie, quels seront les critères qui seront appliqués et nous donner un petit peu de visibilité sur ce qui est susceptible de nous être demandé ou d'être demandé à nos clients, parce qu'il y a le côté salarié, il y a le côté client. On a besoin de cette visibilité, donc on va, je pense, discuter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines avec le gouvernement sur différents scénarios afin d'être préparé à toutes les éventualités. Et il faudra nous donner un petit peu cette visibilité pour qu'une saison d'hiver, qui s'étale quand même sur 6 mois, malgré l'évolution des règles sanitaires en cours d'une période comme celle-là, puissent faire l'objet d'un minimum d'anticipation, tant pour nos clients que pour les entreprises.
Donc si la situation sanitaire venait à nouveau à se dégrader dans les 6 mois à venir, il y aurait à nouveau des restrictions ? Est-ce que vous allez en discuter ?
Alors écoutez, si la situation sanitaire venait à se dégrader dans les 6 prochains mois, j'imagine qu'il y aurait potentiellement plusieurs formes de restrictions. Et donc les loisirs, comme le reste des activités, sont susceptibles d'être impactés. Cela étant, nous, on rappelle au gouvernement que le ski est une activité de plein air, que c'est un loisir individuel, que nos infrastructures de transport, les remontées mécaniques sont en général avec des véhicules ouverts. Je pense au téléski, je pense au télésiège. Et qu'évidemment, le risque sanitaire sur une remontée mécanique est sans aucun doute très inférieur à ce qui peut être dans d'autres situations de transport en commun, par exemple. Et on espère que cette année, la raison l'emportera pour que ce loisir ne soit pas injustement stigmatisé.
Et ce serait gérable, un pass sanitaire obligatoire pour monter dans des œufs, par exemple, de manière quotidienne,
s'il fallait le mettre en œuvre, pourrions l'envisager. J'ai envie de dire tout plutôt qu'une nouvelle fermeture. Donc c'est aussi pour ça qu'on demande de la visibilité. C'est pour pouvoir travailler et anticiper sur différents types de scénarios, prévoir le pire pour n'avoir que le meilleur le moment venu. Un pass sanitaire serait difficile à gérer, mais avec des systèmes tels que ceux que la SNCF a mis en œuvre dans ses propres trains, il y avait un petit peu cette même caractéristique que nous partageons d'avoir des points d'entrée multiples sur une ligne de train, comme c'est le cas sur un domaine skiable. Et je pense que s'il fallait le faire, on pourrait l'envisager sur un système de contrôle aléatoire. Enfin, quand je vois que le pass sanitaire est exigé en boîte de nuit, je me demande si le demander aussi sur un espace naturel comme un domaine skiable, c'est bien raisonnable. Cela étant, s'il fallait le faire, on préfère l'anticiper et le prévoir plutôt que de devoir le faire en catastrophe, ce qui est toujours moins confortable pour les salariés comme pour les clients.
Quand ouvriront les premières stations ?
Alors, à la Toussaint, on a traditionnellement en général les deux Alpes et puis la station de Tignes qui ouvre le bal. Et ensuite, fin novembre, des stations comme Val Thorens. Après, c'est en fonction aussi des chutes de neige. La plupart des stations ouvrant dans les 15 premiers jours du mois de décembre. Et plus si affinité.
Vous êtes le délégué général du syndicat des domaines skiables de France. Merci beaucoup.
Merci, on me l'énerve.
Allez, avant de farter ses skis, on va faire un tour du côté de vos librairies avec la prescription culture.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour. Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un roman en quête, ça s'appelle Bélazar. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah oui, étrange ce titre, bizarre Bélazar. En fait, c'est le prénom du héros. Étrange prénom, mais étrange personnage aussi. Vous allez voir, ce livre est à la fois une histoire policière, l'histoire d'une malédiction aussi, et le portrait d'un personnage peu commun. Le livre, édité chez Phébus, est signé Jérôme Chantreau. Il est écrivain, mais il est prof de collège aussi depuis longtemps. Un jour, il voit débarquer dans son cours de latin un drôle de gamin, pas vraiment taillé pour affronter une cour d'école. Il a 12 ans, une grande mèche à la Albator lui barre le visage, et il s'appelle donc Bélazar. Jérôme Chantreau.
Non, il n'est absolument pas dans le cadre. Il a une grande gabardine en cuir noir, des bottes montantes, un pantalon bouffant, une chemise impossible boutonnée jusqu'en haut. Et franchement, quand on le voit débarquer dans la cour du collège comme ça, on connaît les jungles que peuvent être les cours de collège. Bon courage. On se dit que ça va être terrible pour lui. Et puis, 15 jours après, finalement, tout le monde l'aimait. Il rayonnait sur les autres.
C'est son élève ?
Oui, mais ça se passe mal. Il est hors norme et pas tellement intéressé par les cours. Un jour, dans la classe de latin de Jérôme Chantreau, Bélazard, très tranquillement, ouvre un journal. Évidemment, le prof le sort du cours, les autres élèves ricanent et Bélazard ne reviendra plus jamais en latin. Quelques années plus tard, en 2013, Bélazard a 18 ans, il meurt lors d'un contrôle de police. Il a pris une balle dans la tête, c'est lui qui a tiré avec son arme. C'est donc un suicide, explique le rapport de police.
Et c'est en fait plus compliqué que ça, Nicolas.
Absolument, beaucoup plus. On va comprendre petit à petit ce qui s'est passé grâce à l'enquête de Jérôme Chantreau. Jérôme Chantreau qui a mis quelques années avant de s'emparer de cette histoire. Il connaissait mal Bélazard, c'était un ami de son beau-fils, bon, et quand il a appris sa mort, il a trouvé ça bien triste, mais il est passé à autre chose. Cette histoire va le rattraper malgré lui. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant dans cette affaire, quelque chose de l'ordre de la malédiction. On a beau ne pas être superstitieux, Bélazard est mort un 13 février 2013 au 13 rue de l'Éternité. Ses parents décident de ne pas en rester aux conclusions de la police. Or, la mère réussit à contacter maître Olivier Metzner, qui accepte de s'occuper du cas Bélazard pro bono. Mais comme vous le savez, on retrouvera l'avocat mort dans le golfe du Morbihan le 17 mars 2013. Un autre jeune avocat s'empare alors du dossier, on est en 2015, mais il est tué lors de l'attentat du Bataclan. Jérôme Chantreau nous raconte tous ces rebondissements terribles, on est dans une sorte de polar vrai, et puis soudain, sans abandonner tout à fait l'enquête, on bascule dans l'univers de Bélazard.
C'est que je me rends compte que Bélazard était un artiste qui avait peint des dizaines, des centaines de toiles, qui sculptait, qui façonnait, un plasticien, aussi un collectionneur. Je me suis rendu compte que il avait, à 18 ans, trouvé le temps de concevoir peut-être une œuvre, déjà. Et c'est cet ensemble de choses qui m'ont permis de comprendre que j'avais là, effectivement, une vie, et notamment une œuvre, beaucoup plus intéressante encore que cette affaire tout en camon de sa mort.
Et voilà, et Jérôme Chantreau s'intéresse finalement plus à la vie de Bélazard qu'à sa mort, ce qui fait de ce livre autant un récit haletant qu'un magnifique portrait d'un personnage hors du commun.
Et ce livre s'appelle donc Bélazard, c'est chez Phébus. Merci Nicolas Carreau, on vous retrouve dimanche sur Europe 1 dans La Voix et Livre à partir de 14h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 5h49. L'info résumée en une page, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Un rapport très attendu par les victimes de pédocriminels dans l'église depuis les années 50, celui de la commission Sauvé. Il sera publié à 9h ce matin et promet de faire beaucoup de bruit. Plus de stories, de photos ni de messages pour des milliards d'internautes, notamment en France. Panne géante de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp hier pendant environ 7h. Ce matin, Facebook présente ses excuses et attribue ce bug à des changements de configuration dans les serveurs. Dans les Bouches-du-Rhône, il faut maintenant nettoyer. Après les violentes intempéries d'hier, le département demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une dizaine d'écoles restent fermées à Marseille où la mer a débordé sur le Vieux-Port. Salariés et chômeurs appelés par l'intersyndicale à battre le pavé. Aujourd'hui, ils protestent notamment contre les réformes de l'assurance chômage et des retraites. 200 points de rassemblement sont recensés dans tout le pays.
Europe Matin.
Voilà pour l'actualité nationale et internationale. On va maintenant au plus près de chez vous. C'est en France, l'info vue par vos quotidiens régionaux.
Bonjour Stéphanie Germain.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la rédactrice en chef déléguée des magazines et hors-séries de Ouest-France. Et si nous sommes en ligne avec vous ce matin, c'est justement parce que vous sortez aujourd'hui un hors-série inédit intitulé « Astérix et la mer ». Racontez-nous.
Ah, Astérix et la mer, c'est une aventure en soi. La mer fait vraiment partie des personnages principaux des aventures d'Astérix et Obélix. Et à Ouest-France, nous avons une petite marotte qui est de raconter l'univers maritime à travers les yeux de grands personnages de BD. Nous avions déjà raconté la mer avec Corto Maltese et Tintin. Et cette fois-ci, nous invitons les lecteurs à découvrir un univers maritime très particulier qui est celui de l'Antiquité et de la Méditerranée et de l'Atlantique.
Qu'est-ce qu'on peut y lire et y découvrir notamment ?
On y apprend des tas de choses sur les pirates. Quel genre de pirates croisés en mer au temps d'Astérix ? On y apprend des choses très drôles sur César, qui a vécu de vraies galères en mer aussi. On y apprend des choses très sérieuses, bien sûr. Hein. Comment naviguer, quels étaient les grands navires de commerce, comment les marins traversaient la Méditerranée. On y découvre aussi des tas de choses merveilleuses autour du monde mystérieux de la mer. Au temps d'Astérix, il y avait les peuples partageaient des croyances autour de la mer, les monstres, les légendes. Par exemple, on y apprend que certains marins vénéraient les dauphins, par exemple. Et tout ça à travers les aventures d'Astérix, parce que Vous le savez, les aventures d'Astérix et Obélix sont bourrées d'anachronismes, mais pas que. Goscinny et Uderzo, et maintenant Conrad et Ferry, les nouveaux auteurs, sont des gens extrêmement cultivés, très bien renseignés, très bien informés. Dans toutes les aventures d'Astérix et Obélix, justement, on croise à la fois des informations et des anachronismes. Et c'est ceci que nous essayons de décrypter pour les lecteurs de façon sérieuse et aussi très drôle.
Voilà. Alors, je suis en train de feuilleter ce hors-série et je vois que vous revenez notamment sur des monuments emblématiques et aujourd'hui disparus, comme le phare d'Alexandrie.
Ah oui, le phare d'Alexandrie, qui fait l'objet de répliques assez drôles entre Astérix, Obélix et les marins qui les emmènent jusqu'au bord du Nil. Et effectivement, nous avons toute une séquence sur le phare d'Alexandrie, de même que sur le canal de Suez aussi, qui est en lien avec ce que l'on découvre dans les albums d'Astérix, notamment celui sur Cléopâtre. On apprend comment est vraiment né ce canal de Suez. Il n'est pas né de la dernière pluie, si je puis dire.
Alors, si vous publiez ce hors-série aujourd'hui, c'est parce que le prochain album d'Astérix, Astérix et le Griffon, c'est son titre, sort dans 2 semaines, le 21 octobre. C'est toujours un événement, pas seulement en France, mais quasi mondial.
Ah oui, c'est un événement mondial. C'est plusieurs millions d'exemplaires vendus tous les 2 ans, puisque un album sort tous les 2 ans. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que le Griffon, qui est cette nouvelle quête épique d'Astérix, nous parlera là encore des mystères et des légendes au temps d'Astérix, ce que l'on explique aussi dans le hors-série.
Merci beaucoup Stéphanie Germain d'avoir été avec nous. Astérix et la mer, c'est le titre de ce hors-série de West France, disponible dans tous les kiosques de la Gaule au prix de 8,90 €. On parle bien d'euros et non de sesterces. Bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci à vous.
Elle a été désignée interprète féminine de l'année en 2020 pour son album Sainte Victoire. On lui souhaite autant de réussite avec cœur. Clara Luciani sur Europe 1.
Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure son timidité, une insolence chorégraphiée. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier.
C'était Clara Luciani. Avec Respire Encore, extrait de son deuxième album Cœur, sorti en juin dernier. Clara Luciani qui sera en concert à l'Olympia à la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire du 17 au 19 octobre.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europe 1, il est 5h57. Alors Julien, de faire un point sur ce qui vous attend dans les minutes qui arrivent.
La météo et le journal pour commencer, suivi d'une réflexion. Celle d'un homme qui a été l'un des premiers à briser l'omerta sur les violences sexuelles commises au sein de l'église. C'était en 2016 à Lyon pour dénoncer les agissements du père Prénat. C'est cette affaire, l'une des premières à ne pas avoir été étouffée, qui a mené à la création de la commission Sauvé. Et bien après 2 ans et demi de travail, son rapport sur la pédocriminalité dans l'église sera rendu public dans la matinée. Ces conclusions vont ébranler l'institution et les nombreuses victimes dont fait partie François Deveau, l'ex-président de l'association La Parole Libérée, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes. Et puis juste après, Omblin, un artiste de légende dans votre partition.
Un chanteur qui savait qu'il n'en avait pas pour longtemps, condamné trop tôt à cause d'un cœur trop fragile. L'icône new-yorkaise Bobby Darin dans le sillage de Frank Sinatra, le récit de son destin hors du commun dans 20 minutes.
Voilà une musique qui laisse espérer un soleil éclatant, mais Anissa Dadi, c'est pas au programme.
Non, il va y en avoir du soleil quand même, si si. Je vais vous rassurer, vous allez passer une belle matinée sur toute la moitié est du pays. Donc entre le Grand Est et la Provence, vous allez avoir une matinée ensoleillée. On a encore quelques petites averses résiduelles qui traînent sur les Alpes, vraiment à l'est du Rhône. Voilà, 3 petites gouttes qui restent de la perturbation d'hier. Donc profitez de ce soleil parce que effectivement, là vous avez raison Julien, c'est que ça va pas durer. On a des pluies moins fortes qu'hier, certes, mais de nouvelles pluies qui arrivent. C'est une nouvelle perturbation qui touche l'ouest. Donc actuellement, là, à 6h, on a de la pluie de Caen jusqu'à Bayonne, sur toute la façade atlantique. C'est en Nouvelle-Aquitaine, sur Bordeaux, sur Périgueux, sur Angoulême. C'est là que les pluies sont les plus soutenues ce matin. Cette perturbation, elle avance très vite. Dans à peine quelques heures, là, en milieu de matinée, les pluies arrivent sur les Hauts-de-France, sur la région parisienne, sur le centre-Val de Loire, sur les Pyrénées. La matinée est ensoleillée à l'est, je vous le disais. Puis cet après-midi, c'est à l'est qui va pleuvoir, de l'Alsace jusqu'au littoral méditerranéen, avec même des orages en Corse. On a 8 à 18 degrés ce matin. Cet après-midi, ça baisse seulement 12 à Aurillac, 15 degrés à Saint-Étienne, 16 à Lille et Lyon, 17 degrés à Paris et Lorient, 22 à Marseille, 23 à Nice et 25 la maximale pour Bastia.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, vous avez bien raison, c'est votre journal. Il est 6h.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Jusqu'à 9% de hausse de salaire, c'est la proposition du secteur de l'hôtellerie-restauration, déserté par les travailleurs. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer les embauches? Témoignage dans ce journal. Cela va vous surprendre, mais oui, notre pouvoir d'achat a augmenté de 5 dernières années, plus 8%, surtout pour les foyers les plus modestes. C'est ce que démontre un rapport du Trésor public. Et puis quand la peinture devient sculpture, une association propose aux non-voyants de découvrir des chefs-d'œuvre de notre patrimoine grâce à des répliques en 3D, un concept qui séduit déjà des grands musées. Le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 240 000 salariés en moins dans l'hôtellerie-restauration. Estimation du ministère du Travail sur un an. Une hémorragie accélérée par la crise. Alors pour la soigner, l'UMI, l'Union des métiers du secteur, dévoile ce matin ses solutions. Jusqu'à 9% de hausse de salaire, un 13e mois, des week-ends de congés. Des propositions sur la table des négociations avec les syndicats de salariés. Mais Amélie, elle, ne changera pas d'avis. Cette jeune femme de 25 ans a quitté le secteur après le premier confinement.
Ça a été vraiment un déclic pour moi phénoménal. À la base, moi, je m'étais dit, j'ai de la chance, j'ai un travail. Et au final, avec le confinement, je me suis dit que j'attendais autre chose, quoi. Il y avait des jours où je pouvais faire du 11h30 jusqu'à 23h30. Samedi, dimanche, tous les jours fériés inclus, j'étais payée au SMIC. Et je trouvais que ça ne suivait pas, en fait, l'investissement moral et physique que ça impliquait. Pendant le premier confinement, ma vie de couple a connu un boost phénoménal parce que je voyais mon mari, j'avais le temps d'échanger avec lui. Ça m'a permis de redécouvrir la vie de famille, la vie sociale et tout. J'ai eu l'occasion du coup de changer de travail grâce à ça. Même avec ces réformes-là, pour moi, c'est pas suffisant. Je sais pas si d'autres personnes auront envie de revenir, mais en tout cas, dans mon cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour.
Le témoignage d'Amélie, ancienne salariée dans la restauration, joint par Caroline Baudry pour Europe 1.
Les chiffres risquent d'être terrifiants. La commission Sauvé rend ce matin son rapport sur la pédocriminalité dans l'Église catholique de France. 2 ans et demi d'enquête pour une estimation précise du nombre de victimes. Plus de 100 000 500 000 selon plusieurs sources internes à la Commission.
Le budget 2022 arrive ce matin sur le bureau des députés de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi de finances, le dernier du quinquennat, est étudié en Commission des finances. Et du côté du pouvoir d'achat, le bilan est positif pour l'exécutif. C'est ce que démontre un rapport du Trésor public. On n'en a pas toujours l'impression quand il s'agit de faire ses courses. Mais non, notre pouvoir d'achat n'a pas diminué ces dernières années. Carole Ferry, contre toute attente, il a même augmenté pour certaines catégories de la population.
Oui, avec une hausse du pouvoir d'achat de 8% entre 2017 et 2022. Selon l'Élysée, c'est deux fois plus que sous les deux quinquennats précédents. Alors, ceux qui en ont le plus bénéficié, ce sont les 20% de ménages les moins aisés, grâce notamment à la revalorisation de l'allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse, du chèque énergie et surtout de la prime d'activité. Les classes moyennes, elles, ont essentiellement bénéficié de la suppression de la taxe d'habitation et de la baisse de l'impôt sur le revenu. Les plus aisés ont profité pour leur part de la suppression de l'ISF. Et puis il y a eu enfin toutes les mesures de soutien pendant la crise, selon Éric Heyer, chef économiste à l'OFCE.
Il y a eu un quoi qu'il en coûte extraordinaire au cours de cette crise. Et donc ce quoi qu'il en coûte a maintenu et même a fait progresser le pouvoir d'achat. Mais la face cachée de cette forte augmentation du pouvoir d'achat, c'est des déficits publics et des comptes publics qui sont très fortement dégradés. La question qu'il faut se poser tout de suite après, c'est qu'est-ce que l'on va faire de ce déficit ?
Une question qui devrait être tranchée lors du prochain quinquennat.
L'éclairage de Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Il s'agissait de pêcheurs expérimentés. Le témoignage des familles des 5 naufragés français du Bugalet de Braise. Première journée d'audience hier devant la justice britannique.
Une enquête relancée 17 ans après la disparition de ce chalutier breton dans les eaux anglaises. Parmi les hypothèses, un accident avec un sous-marin à proximité. Londres accorde 3 semaines d'audience pour connaître les causes de cet accident. Une initiative saluée par l'avocat des familles des pêcheurs, maître Dominique Tricot.
Formidable que les Anglais acceptent de consacrer 3 semaines à cette affaire, là où la France a eu peur de le faire, où la raison d'État était la plus forte. Cela dit, on ne peut pas sortir de cette audience avec un optimisme excessif, parce que l'expert a été appointé avec une mission complètement idiote, puisqu'on ne lui a donné comme grain à moudre que le rapport du BEA, qui est un rapport non judiciaire, qui est un rapport fait par le ministère du Tourisme, qui est le seul qui conclut à l'hypothèse d'une croche molle et pas à celle d'un sous-marin. Donc ce pauvre expert considère que ce rapport est l'évangile, et chaque fois qu'on lui donne un des autres rapports, c'est une pierre dans sa chaussure qu'il doit écarter. Donc forcément, on ne peut pas être optimiste.
L'avocat Dominique Tricot au micro d'Anaïs Cordoba, correspondante à Londres pour Europe 1. Un changement de configuration dans les serveurs. Voilà pourquoi vous n'arriviez plus à accéder à votre compte Facebook, WhatsApp ou Messenger hier. Retour à la normale ce matin après 7 heures de panne.
Plus d'1,5 million de personnes sont malvoyantes en France. Une journée nationale leur a été consacrée hier. Et pour l'occasion, une association propose de leur faire découvrir les grands chefs-d'œuvre de la peinture.
Toucher pour voir, c'est le principe de ces répliques 3D. Des œuvres version tactile où la peinture devient sculpture. L'idée de l'association Valentin Haoui a déjà séduit quelques grands musées. Découverte avec Marie Jiquel.
Profiter d'une sortie au Louvre avec son fils, c'était inespéré pour Manuel, aveugle de naissance. Il a enfin pu découvrir avec ses mains, le temps d'une exposition, certains chefs-d'œuvre qu'il n'avait pu que fantasmer.
Pour moi, c'est un dispositif qui est complètement révolutionnaire. Par exemple, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, j'imaginais pas du tout ça comme ça. Faut m'en parler, pour moi, c'était très abstrait.
Pour réaliser ces déclinaisons tactiles, des artisans de l'association partent d'un tableau, le dessinent en 3D et fabriquent sa version en relief. Désormais, les non-voyants peuvent toucher la tapisserie de Bayeux, les danseuses mauves de Degas et même certaines estampes japonaises. Mais tous les tableaux ne se prêtent pas à ces moulages en résine, comme l'explique Marie Furic, responsable du service culturel de l'association Valentin Haoui.
L'essence même de la Joconde, c'est son regard et le fait qu'elle va nous regarder à n'importe quel endroit de la pièce. C'est vrai qu'en 3D, on perdra cette essence même de certains tableaux. Et par exemple, il y a des tableaux qui sont très très modernes. Par exemple, Un monochrome, c'est compliqué à expliquer à une personne qui ne voit pas.
Prochain défi pour l'association, modéliser une tour de 24 mètres de haut, la tour aux figures de l'artiste Jean Dubuffet.
Explication signée Marie Jiquel du service Société d'Europe 1.
C'est le premier Français à prendre les commandes de la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet, le fameux, est devenu le capitaine du vaisseau cette nuit. Et il y a même eu une cérémonie de passation où le Français a récupéré la petite clé dorée de l'ISS. Pas plus gros qu'une clé de voiture d'ailleurs.
D'accord. C'est bon à savoir. Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
On passe au sport à 6h06.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et une interview qui va faire grand bruit. Martin, Kylian Mbappé s'exprime ce matin dans l'équipe.
Oui, le prodige du PSG revient sur son été agité, hein, il le confirme. Il a voulu quitter le club de la capitale. Partir était la suite logique, explique-t-il. Mais les décideurs parisiens ont refusé toutes les offensives du Real Madrid. Désormais, Mbappé peut signer gratuitement où il le souhaite dès le 1er janvier. Son départ semble inévitable, même si l'intéressé l'assure, hein, il ne ferme aucune porte.
Kylian Mbappé qui a retrouvé les Bleus hier.
Oui, les joueurs de Didier Deschamps se préparent avant leur match contre la Belgique jeudi soir, une demi-finale de Ligue des Nations, une compétition qui n'a pas l'aura du Mondial ou d'un Euro, mais que le sélectionneur des Bleus n'entend pas galvauder. Écoutez.
C'est un titre. Jusqu'à maintenant, au niveau international, il y avait deux titres, champion d'Europe et champion du monde. Il y a une compétition en plus, on a tout fait pour se qualifier en allant gagner au Portugal. Donc maintenant qu'on y est, on fait partie des quatre, il y a une place en finale et puis c'est un titre en plus. Après, vous le mettrez où vous voulez dans l'échelle, on est déjà en demi-finale. Ce n'est pas le cas dans les deux autres, que ce soit championnat d'Europe ou Coupe du Monde.
Didier Deschamps au micro Europe 1 de Jean-François Pérez. Belgique-France, c'est jeudi soir donc et ça se passe à Turin.
Moins de 2 mois après Tokyo, on reparle déjà des JO.
Oui, le comité olympique français a présenté hier une nouvelle identité visuelle pour les Jeux de Pékin cet hiver, mais surtout pour les Jeux de Paris dans moins de 3 ans. Cette identité, c'est un coq gaulois revisité. Ce coq qui accompagne les athlètes depuis 1920 apparaît de face pour la première fois. Son bec forme le V de la victoire et sa crête représente la flamme olympique. Écoutez l'enthousiasme de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris.
Moi je l'aime ce coq, je l'aime parce que voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne, ça fait longtemps qu'on travaille sur cet enjeu de fédérer au sein d'un même collectif les sportifs olympiques, les sportifs paralympiques, les sportifs d'été, les sportifs d'hiver. Aujourd'hui il n'y a plus qu'un collectif équipe de France, il n'y a plus qu'un coq et on est ravis que cette équipe de France elle ait une identité visuelle qui lui parle et qui soit l'image de ses valeurs.
En bref, pour finir, Martin.
Une tuile pour le 15 de France. Le centre Arthur Vincent s'est rompu les ligaments croisés. Il sera absent au moins 6 mois et devrait manquer la tournée d'automne et le tournoi destination. Enfin, 2 rendez-vous ce soir. Du foot féminin avec l'entrée en lice de Lyon en Ligue des Champions à Aachen en Suède. Et puis du basket, Monaco se déplace à Boulogne-le-Valois.
C'était le journal des sports de Martin Lange. Merci Martin.
Restez avec nous, dans un instant nous serons en ligne avec François Deveau, ex-président de l'association La Parole Libérée, l'une des premières victimes de violences sexuelles dans l'église à avoir brisé l'omerta. Sa réaction et ses attentes dans une minute sur le rapport de la commission Sauvé qui sera rendu public tout à l'heure. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin. Il est 6h12, bon réveil, bienvenue si vous arrivez sur Europe 1. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église va rendre public aujourd'hui un imposant rapport sur la pédocriminalité au sein de l'institution depuis les années 50. Le choc s'annonce considérable. Pour en parler, Julien, nous sommes en ligne avec François Deveau, ex-président de l'association La Parole Libérée.
Bonjour François Deveau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est en levant l'omerta sur les agissements du père Prénat, en brisant le silence en 2016, que votre association a forcé l'Église catholique française à réagir enfin sur ces crimes commis en son sein. Et l'une de ces réactions, c'est ce rapport indépendant qui sera rendu public aujourd'hui. On n'en connaît pour l'heure qu'une estimation. Environ 3000 pédocriminels ont sévi dans l'Église depuis les années 50. Quelle est tout d'abord votre réaction à ce chiffre ?
En tant qu'ancien président de cette association qui s'est battu pour ces questions-là, on a reçu effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Et au vu de toute l'inaction de l'Église et des révélations à travers le monde, évidemment, on avait bien idée que c'était d'une ampleur massive et c'est bien pour ça qu'on a poussé à ce qu'on arrive à ce moment de vérité qui, je pense, va marquer l'histoire.
Justement, qu'attendez-vous de ce rapport, de ce moment de vérité, comme vous le dites ?
J'attends la reconnaissance institutionnelle de la responsabilité de l'Église, ce que le pape et les évêques n'ont pas été capables d'assumer jusqu'à ce jour. Et je pense que voilà, ça va être un grand soulagement pour beaucoup de victimes de se sentir enfin reconnues. Et on va pouvoir très vite se mettre en route pour procéder au principe de réparation, à commencer par l'indemnisation de ces victimes.
Alors justement, pour l'heure, il y a environ 5 millions d'euros qui ont été provisionnés par la Commission des évêques de France. Vu le nombre de victimes qui pourraient être annoncées tout à l'heure, ça vous semble dérisoire ?
C'est-à-dire que quand vous êtes parent et que vous avez un fils qui s'est suicidé parce qu'il a été abusé sexuellement, on peut dire que vous avez un préjudice à faire valoir. Donc, sans même compter toutes ces victimes indirectes, les montants qui sont en jeu, ils se comptent en milliards. Pour la France seule, hein, de ce qu'on sait, des victimes directes. Donc, si vous rajoutez les frères et sœurs, les parents, les grands-parents, eh bien, oui, effectivement, il va falloir débloquer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut espérer que ces 5 millions vont suffire à mettre en place et organiser tout le processus pour indemniser ces victimes avant qu'elles ne meurent. Donc tout ça doit être fait dans un délai record.
Est-ce que, par ailleurs, vous sentez l'Église réellement prête à changer ?
Non, je suis assez inquiet, si vous voulez. On a atteint un tel niveau de trahison. On a tellement dissimulé, caché, de façon stratégique et préméditée. On a tellement refusé de se remettre en question. Moi, en tant que président de l'association, j'ai tellement saisi cette institution. J'ai saisi le pape, j'ai saisi le nonce, j'ai saisi les évêques, j'ai saisi la CEF. On a tellement pu constater leur désinvolture, leur attentisme. Effectivement, on peut s'interroger, après avoir commis des crimes en masse pendant des décennies, et de les avoir soigneusement cachés, en faisant interagir tout un tas de défaillances et de malveillances pour compliquer le parcours de vérité, que effectivement, la question ultime qui se pose au regard de tout ça, c'est est-ce que l'Église, est-ce qu'on peut penser que l'Église en est réellement capable ? Est-ce qu'elle est réellement capable de l'ambition qui s'empare voilà. Il faut qu'elle retrouve sa confiance devant toute l'humanité. Donc, on a parlé de l'argent. Il y a beaucoup d'argent à trouver. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup pour la France, mais beaucoup pour le monde entier. Parce qu'on sait maintenant que la situation est pire en Espagne et en Italie. Donc, il va falloir aller voir aussi. Et puis, il y a une grosse ambition en termes de réforme. C'est-à-dire que ces crimes en masse, ils ont une origine qu'on arrive à identifier, que la science de la SIAZ arrive à identifier.
C'est-à-dire qu'elle est systémique, c'est ça ?
Exactement. C'est ça, le grand plus de ce rapport, sa grande valeur ajoutée, c'est justement d'avoir permis de comprendre la dimension systémique du problème.
Et donc ça veut dire qu'il faut revoir tout de fond en comble, du pape au curé, en passant pourquoi pas par le célibat des prêtres ?
Vous n'imaginez pas tout ce qu'ils ont à revoir. Ouais, 1789, c'est une partie de pétanque à la place.
Merci beaucoup François Deveau, ex-président de l'association La Parole Libérée, d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 6h17 et vous restez avec nous, Bobby Darin, dans la partition. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue sur Europe 1, il est 6h19. Le retour de l'info avec le journal permanent d'Alban Le Prince.
Combien de victimes de pédocriminels dans l'Église depuis les années 50 ? On le sait déjà, c'est un nombre à 6 chiffres. Le rapport de la commission Sauvé commandée par l'Église sera publié ce matin, 9h. Il promet d'être explosif. Dans les Bouches-du-Rhône, les habitants constatent les dégâts ce matin après les violentes intempéries d'hier. Pour les aider, le département demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À Marseille, où la mer a débordé sur le Vieux-Port. Pas de cours ce matin dans une dizaine d'écoles. Facebook présente ses excuses ce matin après la panne géante de Messenger, Instagram, WhatsApp et Facebook pendant plusieurs heures hier. Un bug attribué à des changements de configuration dans les serveurs.
On termine Omblin avec votre partition et avec une idole comme l'Amérique savait en produire dans les années 50 et 60. Bobby Darin fait partie des chanteurs d'origine italienne qui ont contribué à faire résonner le répertoire américain partout dans le monde.
Effectivement, Julien, comme son illustre aîné et modèle Frank Sinatra, Bobby Darin, doué, ambitieux, idéaliste, malgré une courte existence qui ne l'a pas épargné, son désir féroce de vivre l'a poussé à réaliser tous ses rêves, être chanteur, acteur, auteur-compositeur, présentateur à la télé. Il sera tout cela avec plus ou moins de succès. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing.
Bobby Darin est enfant quand il apprend qu'il ne pourra pas vivre très longtemps.
À cause d'un cœur en mauvais état, fragilisé après une grave infection, il a 8 ans et il entend le verdict tomber de la bouche du médecin alors qu'il écoute aux portes. Bobby Darin n'atteindra pas les 40 ans. Voilà pourquoi il va tout faire pour accomplir tout ce qu'il peut pendant le temps qui lui est imparti.
Bobby Darin est né Walden Robert Cassotto et il a grandi dans le Bronx.
Il choisit son nom d'après l'enseigne lumineuse d'un restaurant chinois près de chez lui dont les trois premières lettres du mot sont grillées. Darin devient Darin. Le chanteur apprend à jouer de la batterie, prend des cours d'art dramatique repérés à la fin des années 50. Il adopte tous les codes du rock'n'roll naissant avec une banane vertigineuse, une gomina brillante et un blouson en cuir. Splish splash, I was taking a bath
long about a Saturday night. Yeah. Bobby Darin a la santé fragile, on l'a dit, et il doit affronter une nouvelle épreuve.
Sa sœur finit par lui révéler qu'elle est sa mère biologique, tombée enceinte à l'âge de 17 ans dans une Amérique puritaine. Pour sauver la face, c'est donc sa grand-mère qui s'est chargée de l'élever. Pour rappel, le comédien Jack Nicholson a vécu le même drame. L'ambition de Bobby Darin va alors devenir de plus en plus aveuglante, comme s'il avait une revanche à prendre, une identité à affirmer.
Et au tournant des années 60, Bobby Darin se réinvente en crooner.
En pleine prolifération des groupes de rock, et alors que les Beatles s'apprêtent à tout rafler sur leur passage, il se rapproche ainsi du maître Sinatra. Avec sa gueule d'ange, Bobby Darin est le candidat idéal pour ramener la jeunesse fan de rock vers un répertoire, disons, plus convenable. Lorsqu'il enregistre le classique Mac the Knife, le succès est gigantesque. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight you dare. Five will get you 10, old Mackey's back in town. Now did you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mackey spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? La légende Bobby Darin et la consécration avec Mac the Knife dès le 5 octobre 1959, lorsqu'il se retrouve en tête des classements aux États-Unis. Il y restera pendant 9 semaines, suivra la reconnaissance de la profession qui décernera à Bobby Darin 2 Grammy Awards, celui de l'enregistrement de l'année, celui du meilleur nouvel artiste. Juste vous dire que Kevin Spacey a consacré un film à Bobby Darin, Beyond the Sea, qui est sorti en 2004.
Merci, c'est noté. Merci, Omblin. Restez avec nous, votre matinale gominée se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h, bienvenue, bon réveil. Il est 6h27, que dis-je. Vous arrivez pile à l'heure à 6h27 pour ce qu'on appelle dans le jargon un passage d'antenne.
Oui, nous, Omblin, on s'en va et Dimitri Pavlenko, lui, arrive.
Voilà,
bonjour Dimitri.
C'est la transition. Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.